Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le Corbusier, mesure de l'homme, c'est le titre de la grande rétrospective que propose en ce moment le Centre Pompidou jusqu'au 3 août. Télérama en profite pour publier un hors-série sur le bâtisseur du XXe siècle. Son rédacteur en chef est l'invité de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Non seulement Luc Le Châtelier a conçu ce bel hommage de papier à Maître Corbu, comme il l'appelle et comme l'appellent tous les architectes, c'est un peu son surnom dans le métier, mais il se trouve être le frère de Laurent Le Châtelier, qui a été le grand documentaliste de cette émission pendant plusieurs années et en même temps un ami merveilleux. Je suis donc très ému de recevoir son frère à ce micro. Nous allons parler, vous l'avez compris, d'un génie controversé. J'espère que Sébastien et Franck sont à l'écoute, car ils nous avaient demandé une émission sur Le Corbusier. Eh bien, la voici. Oh, génie controversé, après tout, n'est-ce pas le propre de tous les génies?
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Jeanne, qui souhaite connaître les origines de quelques comptines que l'on chante aux enfants. Ne pleure pas Jeannette, qu'il y a des roussels, où il était un petit navire.
Et puis Amstramgram, piqué, collégramme, enfin, tout ça, bon, bien sûr. Voilà un point d'orgue que Le Corbusier, qui aimait la vie et les enfants, n'aurait sûrement pas renié.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Forcément, vous avez vu des immeubles signés Le Corbusier, vous avez vu de ces maisons toutes blanches, toutes droites, si je puis dire, certaines sur pilotis, on va reparler de tous ces principes architecturaux, bien entendu. Vous avez peut-être vu des meubles signés Le Corbusier, ou des décors, ou des tableaux. Et également, évidemment, c'était un génie multiforme, c'était une espèce d'esprit universel, un peu à la manière des grands hommes de la Renaissance, mais peut-être n'avez-vous pas à l'esprit sa physionomie. Alors il faut voir, hein, cet homme un peu sec, un peu mince, avec le visage émacié, de très grosses lunettes, toujours rondes, ces grosses lunettes rondes d'écaille, et puis l'imperturbable nœud papillon. Il faut l'imaginer chez lui, dans son appartement parisien qui s'ouvrait en plein ciel sur une terrasse plantée de toutes sortes d'arbustes. On n'était pas très loin du terrain de course de Longchamp, ou dans l'espèce de couloir, comme on l'appelait, hein, de la rue de Sèvres, dans le 7e arrondissement, cette espèce de couloir qui, à partir de 1924 et pendant plus de 40 ans, jusqu'à sa mort en 1965, aura été le plus célèbre atelier d'architecte, bien entendu. On parle beaucoup de Le Corbusier à l'occasion de cette grande exposition rétrospective pour le 50e anniversaire de sa mort. Ce sera donc en août prochain l'anniversaire. On parle beaucoup de Le Corbusier avec ce numéro spécial très bien fait, ce hors-série de Télérama, comme toujours très bien fait avec les hors-séries de Télérama. On en parle aussi à l'occasion de la parution de deux ouvrages qui, alors eux, ne vont pas tout à fait dans le sens de l'hommage. François Chalin publie chez Seuil un ouvrage qui s'appelle « Un Corbusier ». C'est sa vision, pour le moins décapante, du génie, du maître. Quant à Xavier de Jarcy, alors lui, chez Albin Michel, il sort carrément un ouvrage polémique qui s'appelle « Le Corbusier, un fascisme français ». Où il accuse Le Corbusier d'avoir quand même frayé avec les milieux du planisme. Ça aussi, nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure, bien entendu, avec une certaine conception de l'eugénisme social, et plus précisément encore, d'avoir accouru à Vichy dès l'automne 1940. Alors, c'est vrai qu'il était à Vichy, incontestablement, Le Corbusier, mais il n'est pas le seul. Perret l'était, c'était son maître, après tout, il l'était aussi, et on pourrait dire qu'un grand nombre des architectes français ont vu dans le régime de Vichy un moyen peut-être de relancer l'architecture sur de nouvelles bases en France. Nous n'entrerons pas, nous, du tout aujourd'hui dans cette histoire et dans cette polémique, mais c'est pour vous dire que la critique a toujours été très présente dans la vie de Le Corbusier. Elle a accompagné toute sa carrière de son vivant, mais depuis sa mort, elle accompagne également sa postérité. Cette critique, elle est fondamentale. La critique, nous dit Luc Le Châtelier, Corbu l'avait un peu cherché, impérieux, dogmatique, volontiers cassant, mais l'esprit vif et la plume alerte. Il a passé sa vie à asséner ses vérités. Radicalement moderne, il revendiqua même le terme puriste, il poussa parfois sa mission de donner à l'être humain sa coquille jusqu'au despotisme. Car notre Suisse austère et protestant a une obsession, ajoute Luc Le Chatelier, où l'ordre règne naît le bien-être. Air pur, mur blanc, hygiène, on fait propre chez soi puis on fait propre en soi, disait le maître. On se souvient de son plan voisin du nom du constructeur d'automobiles et d'avions, surtout, vous savez, qui avait financé ce projet, le plan voisin de 1925, qui prévoyait de raser les quartiers insalubres du Marais et des Halles à Paris, sauf la place des Vosges et le Palais Royal, pour y dresser à distance régulière des gratte-ciel plantés dans l'herbe pour le sport, desservis par des voies rapides sur pilotis. Ouf, entre parenthèses, nous avons fait une émission sur le Vieux Paris il y a quelques jours. On se dit heureusement qu'on n'a quand même pas suivi Le Corbusier dans tous ses grands projets. Certes, ajoute Luc Le Chatelier, il ne s'agissait là que d'une spéculation sur papier. En revanche, dans les années 1930, pour Alger, il y crut à son projet obus, censé pulvériser les idées reçues. Adieu la ville haussmannienne coloniale où les gens se regardent d'une façade à l'autre et ne voient pas la mer. À la place, l'architecte, plus totalitaire peut-être que visionnaire, érige d'un bout à l'autre des collines qui enserrent la rade, un immense immeuble qui sinue sur près de 10 kilomètres de long et dont la toiture est une autoroute. Et oui, vous voyez un peu à quel point le personnage allait loin dans ses conceptions et était fort dans ses projets. Les 10 dernières années de sa vie, écrit Michel Ragon, qui fait partie de ceux qui ont connu Le Corbusier, qui sont allés l'interviewer plusieurs fois chez lui, les 10 dernières années de sa vie, il était devenu un mythe vivant, comme Einstein, comme Chaplin, comme Picasso. C'est très rare, les personnalités qui deviennent des légendes de leur vivant. Et c'est vrai que c'était le cas de Charlie Chaplin ou de Pablo Picasso. Il symbolisait à lui seul l'architecture moderne, ce qui était injuste, bien sûr, car l'architecture moderne n'est pas né seulement de Le Corbusier, mais par son indépendance, son refus de toute compromission, par sa vie consacrée à la recherche technique et plastique et au bonheur des hommes, il méritait bien son honneur. Et Ragon ajoute « La libération du sol par des pilotis supportant l'édifice, le toit-terrasse utilisé comme jardin ou terrain de sport, la séparation des piétons et des voitures, les villes transformées en parcs tout en gardant une forte densité de population, la polychromie, la fenêtre intégrale, la religion du soleil. Toutes ces idées, soudain, devinrent les fondements même de l'architecture contemporaine. Avec le même empressement qu'ils avaient mis à repousser Le Corbusier, l'administration et les architectes accaparèrent ces théories en les édulcorant, en les adaptant au niveau de la médiocrité. C'est peut-être un peu sévère, mais malheureusement, ça n'est pas entièrement faux. Il y a eu beaucoup de faux Le Corbusier, beaucoup d'après Le Corbusier. Ce que nous allons essayer de faire dans le cours de cette émission, c'est de revenir à la source, de revenir au maître, de revenir à ses projets.
Extrait de la bande originale du film Le Ventre de l'Architecte de Peter Greenaway, sorti en 1987, une musique signée Wim Mertens sur Europe 1. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier.
Eh oui, c'est vrai qu'il s'appelait Jeanneret, vous avez parfaitement raison, Charles-Édouard Jeanneret. Il avait pris comme pseudonyme le nom de son grand-père maternel, Le Corbusier. C'est comme ça qu'on le connaît, évidemment. C'était quelqu'un qui, d'emblée, a voulu forger sa vie. Je vous parlais de ce visage imaginaire. acier, de cette silhouette un peu gracile, mais elle n'est pas là par hasard. On est en présence d'une personne, certes d'un naturel un peu sec et nerveux, mais surtout d'une personne qui domine, qui contrôle les choses, qui ne laisse rien aller, si vous voulez. C'était vraiment ça, Le Corbusier. Dès l'âge de 18 ans, dites-vous qu'il construit une première maison. Alors, c'est encore une maison moderne, style, bien entendu, on est en 1906, hein. Mais enfin quand même, grâce d'ailleurs à ses honoraires de tout jeune architecte, 18 ans, vous imaginez, il va partir sur les routes avec son sac à dos. Alors, son véritable apprentissage, il va le faire au pied du mur, comme le maçon. Il va le faire dans l'atelier d'Hoffmann, s'il vous plaît, à Vienne. Vous imaginez ce que ça peut être. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est qu'il s'est choisi lui-même, en bon Suisse qu'il était, avec cette espèce d'esprit de plaque tournante hein, qu'on a quand on est en Suisse, on peut rayonner dans l'Europe entière. Il a choisi les meilleurs maîtres. Il est allé au plus juste source. Hoffmann, donc, à Vienne. Auguste Perret, je vous en parlais, à partir de 1908 à Paris. Il va quand même rester 15 mois chez Auguste Perret. Ça n'est pas rien. Et puis, avec des gens comme Mies van der Rohe ou Gropius, il va se retrouver l'année suivante en Allemagne chez Peter Behrens, qui joue lui aussi un rôle essentiel. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il avait choisi les meilleurs maîtres. Plus tard, d'ailleurs, on le verra choisir les meilleurs disciples, d'une certaine manière. Cet esprit de sélection, cette espèce d'intuition qui l'amenait directement à ce qu'il y avait de plus fort et de plus rayonnant. Alors, il faut l'imaginer toujours circulant hein, sur les routes avec son sac à dos. Il repart en 1911 et alors là, il nous fait une sorte de grand tour d'Europe. Il passe par la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, l'Italie. C'est une Europe du Sud qu'il découvre, une Europe du soleil. Le soleil tellement essentiel dans l'ensemble de ses conceptions, une Europe du mur blanc aussi, parce que c'est en rentrant qu'il a cette idée d'une architecture blanche et nue, comme il le dira lui-même. Alors, il n'est pas seulement, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, mais il n'est pas seulement architecte, Le Corbusier. Il faut imaginer d'abord un artiste plasticien, un peintre, à partir de 1918. Alors, il est en Suisse, hein, et la guerre de 14 est un peu pour lui un petit peu lointaine. Il va exposer. Alors, il s'oppose au mouvement du cubisme avec le peintre Amédée aux enfants. Ils vont exposer tous les deux. Ils ont une brochure qui s'appelle Après le cubisme, et il considère que le cubisme a trop vite dérivé vers une approche superficielle et en quelque sorte ornementale, presque décorative, c'est un peu sévère, mais enfin c'est la vision qu'il en a, et ce que veut Le Corbusier, c'est prendre les choses à bras-le-corps et aller au cœur même de la matière et de la vision qu'on peut en avoir. C'est le fameux purisme qu'il va mettre en œuvre et qui s'exprimera à partir de 1920 dans la revue L'Esprit Nouveau. On a oublié aujourd'hui ce terme, l'Esprit Nouveau. Il n'a pas fait florès, mais en tout cas, à part chez les spécialistes, bien entendu. Mais c'est celui sur lequel on pourrait appuyer l'ensemble de l'esthétique corbusienne. En 1922, au salon d'automne, on lui commande une fontaine. Vous savez, c'est comme ça que ce genre de grand salon officiel, on vous commande des pièces un peu. Et alors là, il est scandalisé. Il répond « Je vous ferai une fontaine et de quoi loger 3 millions d'habitants derrière ». C'est ainsi, nous dit Michel Ragon, qu'il fut amené à créer son premier objet d'urbanisme, le plan et le diorama pour une ville de 3 millions d'habitants. Pour ce travail, Le Corbusier s'associa avec son cousin Pierre Jeanneret, qui resta son principal collaborateur jusqu'en 1939. Toutes les œuvres de Le Corbusier à cette époque sont d'ailleurs signées Le Corbusier-Jeanneret. En 1924, les deux cousins ouvraient leur propre atelier à Paris, 35 rue de Sèvres, en aménageant le couloir de 50 mètres de long d'un ancien couvent. C'est ce fameux couloir dont je vous parlais tout à l'heure. C'est dans cet atelier que près de 200 jeunes architectes de tout pays du monde vont être formés. Parmi eux, précise Michel Ragon, certains sont devenus à leur tour des architectes de réputation internationale, comme les Japonais Sakakura et Maekawa, comme l'Espagnol José Luis Sert, comme le Suisse Alfred Roth, comme le Chilien Duarte, comme les Grecs Candilis et Xenakis, les Français André Wojcinski, Charlotte Perriand, etc. On pourrait citer un nombre incroyable de disciples de Le Corbusier. Alors, il va fabriquer des maisons individuelle dans les années 20, hein, 22, 23, 24, dont la maison aux enfants, la maison Laroche qui est devenue aujourd'hui le siège de la fondation Le Corbusier dans le quartier d'Auteuil, etc. Il participe évidemment à l'exposition internationale des arts décoratifs, hein, les arts déco en 1925, avec un pavillon entier consacré à l'esprit nouveau. Il crée également une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait dire, de module, on y viendra tout à l'heure, parce que la grande idée de Le Corbusier à cette époque, à partir du milieu des années 20, c'est qu'il n'y a pas de raison que tout s'industrialise et que l'architecture demeure un artisanat. Pour lui, l'architecture doit pouvoir s'industrialiser aussi. On doit pouvoir faire des espèces de modules préfabriqués qu'ensuite on assemble et qui permettent de passer au stade industriel de l'architecture. Alors ça, c'est intéressant parce que très souvent, ce qu'on considère comme un architecte moderne, c'est un architecte qui s'adapte au mode de vie contemporain, aux nécessités de l'automobile, de etc. Ou aujourd'hui, de la télévision, tout ce qu'on peut imaginer. Mais chez Le Corbusier, on s'adapte non seulement au mode de vie et à l'environnement, mais on s'adapte aussi au mode de production. Et il faut que l'architecture elle-même devienne une architecture en soi industrielle. Il publie en 1923 « Vers une architecture » et déjà se manifeste là un certain nombre de points de vue très ancrés, très appuyés chez Le Corbusier. Ça, c'est assez intéressant de voir à quel point cet homme-là a une dimension dogmatique. Ça, c'est incontestable. Il a des idées très arrêtées et voyant surtout se lever les boucliers, voyant les résistances s'opposer à ce qu'il considère être comme un progrès du bien-être humain, eh bien, il va constamment se battre et il va peut-être avoir tendance à être un peu dur. Il va, vous savez, c'est lui qui expose, qui met côte à côte une photo d'automobile et une photo du Parthénon en disant, mais voyez, l'industrie est la nouvelle production de notre temps. Ça choque beaucoup. Il devient en quelque sorte l'ennemi de l'architecture classique. Alors, ne parlons pas de ses déboires. Je pense notamment à l'affaire du concours du Palais des Nations à Genève. Hein, il obtient le premier prix. On est en 1927. Sauf que, alors, il y a quand même un des membres du jury qui a fait remarquer que les plans ont été fournis à l'encre d'imprimerie et non pas à l'encre de Chine. Mais voyez, on est passé d'un stade artisanal ou artistique à un stade industriel. C'est toujours la même histoire. Or, les budgets réclamés par Le Corbusier sont tellement faibles que le conseil de la société du Palais des Nations va augmenter considérablement son budget, ce qui fait un scandale. Finalement, on nomme un arbitre et tout ça va finir par une dépossession de Le Corbusier. On nomme à sa place un architecte tout à fait classique qui s'appelle Nénot, qui est français d'ailleurs, et qui va reprendre une part de ses plans. Alors évidemment, procès en plagiat, et allons-y. Vous voyez, cette espèce de lutte constamment. Voilà un homme qui est apaisé sans doute dans ses conceptions et dans sa vision du monde et des choses, mais ne l'est pas du tout dans le rapport qu'il entretient avec ses confrères, avec les administrations, d'une manière plus générale, avec la critique et avec la société. En 1930, il va construire la maison Savoie, à Poissy. Ça, c'est un véritable... Alors, je parlais de manifeste tout à l'heure. Là, on est bien au-delà des mots, bien au-delà des livres. On est en présence d'un tout nouveau type d'habitation. Cette villa Savoie, si vous ne la connaissez pas, si vous n'avez pas eu l'occasion de la visiter, je ne peux que vous conseiller d'y courir, bien entendu.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Un architecte et urbaniste visionnaire est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous nous racontez le destin de Le Corbusier.
Alors bien sûr que son travail, on parlait tout à l'heure, enfin je citais Luc Le Châtelier parlant de ce projet pour Alger, hein, complètement incroyable. On est là dans les années 1930. En 36, il est appelé au Brésil. Il va travailler aux côtés d'Oscar Niemeyer, notamment le futur architecte de Brasilia, qu'il fera revenir d'ailleurs beaucoup plus tard. À l'époque, il s'agit de construire avec Lúcio Costa le ministère de l'Éducation et de la Santé de Rio de Janeiro. Alors, je ne reviens pas sur l'occupation, on en dira un mot tout à l'heure, évidemment, mais sachez que c'est à l'époque de l'occupation que Le Corbusier va développer sa théorie du modulor, cette espèce de nouvelle unité qui pourrait s'appliquer aussi bien à l'architecture qu'aux arts plastiques, qu'à l'industrie, etc. On en dira un mot également. Et puis arrive la libération et vous connaissez les grands principes de construction, plutôt de reconstruction naturelle de l'époque de l'immédiate après-guerre. C'est dans ce contexte qu'on va commander à Le Corbusier sa fameuse unité d'habitation. Rien que le terme, ça fait peur. Hein. Unité d'habitation, Emmanuel, UHM de Marseille. la maison du Fada, comme disent les Marseillais. C'est vrai que c'est un peu particulier comme mais ça fait rire Lorena, ça forcément. C'est un peu particulier comme conception. Là aussi, on y viendra, parce que peut-être que l'essentiel du message, du legs, de l'héritage de Le Corbusier est là, d'une certaine manière. Alors, ça lui vaut énormément de critiques, bien entendu. Tout ça en France, hein, je précise, parce que à côté de ça, il est très demandé partout dans le monde, et je pense à Nehru, notamment, qui en Inde le fait venir pour la célèbre cité de Chandigarh. Et puis, arrive ce moment étonnant dans les années 1950 où vraiment Le Corbusier va retourner, si je puis dire, tous les principes qui étaient les siens et va se relancer dans une architecture alors carrément lyrique, avec de grandes envolées, avec des courbes, avec des lignes qui sont celles de la célèbre chapelle de Ronchamp. Avec Ronchamp, nous dit Michel Ragon, cet homme de 63 ans remettait son style en question. Lui qui avait été le théoricien de l'angle droit, cet angle droit devenu la tarte à la crème de l'architecture moderne, se convertissait soudain aux courbes. Il concevait sa chapelle comme une sculpture, comme un signal. En 58, le pavillon Philips à l'exposition universelle de Bruxelles accentuait encore le nouveau lyrisme corbusien fait de tensions et d'envols. C'est là un des non moindre signe de la grandeur de Le Corbusier que cette nouvelle voie ouverte dans sa vieillesse. Celle-ci dut-elle apparemment contredire la première. Finalement, Le Corbusier, je vous l'ai dit, mourra le vendredi 27 août 1965. Il était en train de se baigner du côté de Roquebrune, Cap-Martin, lui qui aimait tant le soleil et la Méditerranée. Il était en train de se baigner dans une petite crique, vous savez, ces criques d'un bleu tellement sombre et transparent, extraordinaire de la Méditerranée. Puis soudain, il a été frappé par d'une crise cardiaque et on a pu le ramener jusqu'à la plage. Les gens qui ont ramassé ce vieux monsieur ne savaient pas du tout qui il était, bien entendu. On a essayé de le ranimer, on lui a fait le bouche à bouche, etc. Il était trop tard. Le Corbusier était mort à 78 ans. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que lui qui avait été tellement décrié, tellement moqué, je crois que peu d'hommes au XXe siècle auront suscité autant de raillerie que Le Corbusier, hein, bien entendu. Il va recevoir toute la, comment pourrait-on dire, presque des obsèques nationales. En tout cas, on va exposer sa bière dans la cour du Louvre, on lui rend des honneurs officiels et militaires. Ces honneurs sont d'une amère ironie, conclut Ragon, lui qui avait été toute sa vie persécuté par les architectes académiques, qui avait été raillé par la presse plus que tout autre artiste de notre temps, qui avait été tenu éloigné des commandes de l'État, avait attiré autour de son cercueil quatre ministres, de nombreux ambassadeurs et les représentants des deux institutions qui lui avaient été le plus hostiles, l'Ordre des architectes et l'École des Beaux-Arts. À la suite d'André Malraux, toute la presse rendit hommage au plus grand architecte du monde, entre guillemets. Dommage qu'elle ne s'en soit pas aperçue plus tôt, mais c'est dans l'ordre des choses. Les géants ne font plus peur lorsqu'ils sont couchés par la mort. Les génies sont rassurants lorsqu'on peut les embaumer. Bonjour Luc Le Châtelier. Nous avons beaucoup de questions à aborder, des sympathiques et des moins sympathiques. Je vous dis déjà que nos auditeurs sont en train, si vous me passez l'expression, de s'engueuler via Twitter et via Facebook, comme quoi Le Corbusier ne laissera jamais personne indifférent.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Jusqu'au 3 août, le Centre Pompidou à Paris salue le génie d'une des grandes figures de la modernité du XXe siècle dans l'exposition Le Corbusier, mesure de l'homme en partenariat avec Europe 1. L'architecte et urbaniste est également à l'honneur dans le hors-série du magazine Télérama, Le Corbusier, le bâtisseur du XXe siècle. Et vous recevez Franck Ferrand, le journaliste à Télérama et rédacteur en chef de ce hors-série, Luc Le Châtelier.
Alors Luc Le Châtelier, c'est assez étonnant de voir à quel point Dès qu'on parle de Le Corbusier, les gens s'énervent ou s'irritent. Alors je vous donne deux exemples qui arrivent comme ça sur Twitter. Claude nous dit « Oh là là, sa chapelle bunker de Ronchamp, une véritable horreur !» Et évidemment, Anne lui répond « Pas du tout la même appréciation, je respecte votre dégoût. Essayez de respecter l'admiration et l'émotion d'autrui. » Et j'ai envie de dire « etc. etc. » Josiane nous dit « J'ai un souvenir d'enfance d'une cité Le Corbusier à Nantes, ça paraissait très avancé pour l'époque. » Benoît nous dit « J'espère que vous aurez un petit mot pour la chapelle de Ronchamp, un des chefs-d'œuvre. Il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Peut-être que Le Corbusier, en quelque sorte, a rompu trop violemment avec l'habitat tel qu'il existait depuis des siècles. C'est peut-être ça le problème, Luc Le Chatelier.
Il a rompu sans doute. Il n'était pas le seul, mais c'est lui qui est allé peut-être le plus fort et le plus loin tout de suite en proposant des solutions qui étaient complètement révolutionnaires pour l'époque. Vous aviez dit tout à l'heure très justement que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup, c'est un homme d'ordre, il aime organiser les choses, il aime que tout soit très clair, que quand il se met à peindre, il fait d'abord son manifeste sur le purisme et après il se met à peindre selon le manifeste qu'il a écrit. Pour l'architecture, on a un peu l'impression que c'est la même chose, même s'il essaye quand même de construire des maisons, il commence très jeune à construire des maisons, mais très vite, il théorise ses maisons et effectivement, il insuffle des nouvelles règles dans l'architecture qui bouleversent pas mal les choses. Vous l'avez dit, les pilotis, ça peut se discuter, mais c'est pour libérer le sol. Le plan libre sur tout ça, c'est une...
Qu'est-ce qu'on appelle le plan libre ?
C'est une grande nouveauté. C'est plutôt que de faire porter la maison par les murs, vous construisez une structure à l'intérieur, des poteaux qui soutiennent des dalles en béton. Et après, les murs extérieurs, ce ne sont que des façades, que des décors. Vous pouvez faire ce que vous voulez.
Presque des cloisons, des pots avec l'extérieur. En fait.
Des pots extérieurs et les cloisons intérieures, c'est pareil, vous les mettez où vous voulez.
Et parfois, vous ne les mettez pas du tout d'ailleurs. Ce qu'on voit très bien à la Villa La Roche, il y a peu de cloisons, on va dire. Il y en a peu. Oui. C'est-à-dire de grands espaces, des plans inclinés, des terrasses, et ces terrasses toujours... Alors c'est curieux parce que comment un homme qui ne pense qu'à faire des terrains de jeu, des terrains de sport. Il avait dans son bureau une photo où on voyait des enfants en train de jouer au ballon sur le toit de la Cité Radieuse de Marseille, justement. Donc comme une sorte de témoin de réussite de son projet, comment cet homme peut-il par ailleurs se montrer aussi sec, aussi théoricien, aussi éloigné de la réalité concrète, de la vie, de l'expérience des choses ?
Il était naturiste l'été quand il était dans son cabinet de Roch Cabanon.
Vous avez
pardon.
Bien dit naturiste.
Naturiste, oui. Il y a des photos de lui en train de peindre tout nu dans son cabanon. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le soleil, vous l'avez dit. Il découvre la Méditerranée quand il fait ses premiers voyages aux alentours de 1910. Et pour lui, c'est vraiment une libération. Et donc, il est dans ce mouvement hygiéniste, et c'est ça qu'on lui reprochera aussi plus tard, de dire le corps, le soleil, le grand air, pour lutter contre la tuberculose, pour lutter contre les taudis, il faut ouvrir l'architecture, il faut ouvrir les fenêtres, il faut des grandes fenêtres, il faut aller sur les toits, c'est idiot d'en faire des toits en pente, autant faire des terrasses pour pouvoir aller voir le soleil de là-haut.
En fait, on avait depuis des siècles vécu sur l'idée d'une adéquation entre le raffinement et l'esthétique. L'esthétique était un signe de perfection, d'une certaine manière. Il fallait donc, et tous les architectes, quels qu'ils soient, alors on pourrait faire des petites exceptions, c'est vrai que des gens comme Boulez au 18e sont déjà un peu sur une autre démarche, mais enfin, d'une façon générale, il fallait que tout soit beau. Et puis, lui arrive, il ne nie pas l'esthétique, car globalement, ce qu'il fait est assez harmonieux dans les proportions, dans les lignes, même d'une certaine façon dans le traitement des matériaux. Mais en revanche, il met en avant la fonctionnalité, l'utilité, l'aspect pratique et l'aspect, comment pourrait-on dire, vous parliez de sanitaire quasiment, ou hygiéniste. C'est quand même un changement total par rapport à ce qui se faisait.
Oui, mais il le revendique comme une esthétique. Parce que quand il construit la Cité Radieuse à Marseille au lendemain de la guerre, le chantier se passe très mal. Les différents corps de métier ne s'entendent pas. Ils sortent des coffrages et quand on décoffre le béton, on s'aperçoit qu'il y a plein d'erreurs. Le Corbusier arrive, il dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire là ?» Et il n'a plus d'argent, il ne peut pas faire un enduit par-dessus. Et il se dit « Bingo, on a trouvé, on va faire il appelle ça l'esthétique du mal foutu. » Parce que sur ce béton brut, la lumière joue merveilleusement bien et c'est une certaine forme d'esthétique.
Alors vous avez parmi les très nombreux chapitres passionnants hein, de ce hors-série, vraiment, alors il faut le recommander. Vous nous présentez un certain nombre des inventions, des trouvailles de Le Corbusier. On peut pas toutes les évoquer. Vous avez appelé ça l'état de siège. Il y a par exemple une voiture qui fait penser, mais quasiment trait pour trait, à la quasi-totalité des automobiles d'aujourd'hui, fabriquées d'après les essais en soufflerie. C'est quand même incroyable. Elle est totalement visionnaire. Et le dessin date de 1928. Ça paraît complètement impensable. Il y a le fameux fauteuil grand confort, là, cette espèce de cube tubulaire, qui aujourd'hui se retrouve mais partout dans toutes les salles d'attente, même dans les salons des gens. Il y a, alors ça c'est incroyable, une cellule cuisine qui est issue de la Cité radieuse de Marseille, justement. C'est donc tout un bloc cuisine. Vous avez l'impression, je ne vais pas citer de marque à l'antenne, mais on a l'impression des cuisines aménagées qu'on vous vend partout maintenant chez tous les marchands. Comme s'il avait été celui qui préfigurait tout cela quand même, c'est incroyable. Jusqu'au tabouret là du cabanon, de son cabanon de la Méditerranée, qui est tout à fait l'ancêtre de certains meubles suédois qu'on peut trouver aujourd'hui en grande surface.
Non, cela, il faut avoir une pensée pour Charlotte Perriand, qui quand même a beaucoup travaillé avec lui et a beaucoup travaillé justement sur ces éléments de design et d'aménagement intérieur.
Oui, d'ailleurs ça tombe bien puisque Bruno nous dit via Facebook, quant au mobilier série LC, gonfler le papy car c'est Charlotte Perriand qui a tout conçu, nous dit-il.
Il faut rendre hommage à Charlotte Perriand qui a vraiment fait des belles choses.
C'est un peu l'histoire de Rodin et de Camille Claudel, mmh. Cette histoire. Bon, alors, nous allons revenir bien sûr sur un certain nombre des grandes conceptions de Le Corbusier, mais avant ça, trois ou quatre mots sur la polémique actuelle. D'abord, sur son tempérament. Il était vraiment très dur. C'était pas quelqu'un de très...
Je ne l'ai pas connu, je vous rassure, mais j'ai rencontré des gens qui l'avaient connu, en particulier Paul Chemetov, qui m'a dit qu'un jour il était allé le chercher avec des jeunes étudiants en architecture à l'aéroport d'Orly, parce qu'il voulait que Le Corbusier leur donne des cours. Et il les a pris de très haut en leur disant, je ne sais pas exactement quoi, mais genre petit con, allez travailler dans la nature d'abord, allez dessiner sur le motif et après vous viendrez me voir. Mais de toute façon, les cours, moi je n'en donnerai pas. C'est vraiment sur le chantier qu'on apprend à être un architecte.
Ouais. Et c'est comme ça qu'il avait fait, lui, d'ailleurs.
Oui, il n'a pas été à l'école. Il a été à l'école des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, mais assez peu, quoi.
Alors, puisque vous parlez de Paul Chemetov, il vient de signer dans les pages débat du Monde un très intéressant article intitulé « Le Corbusier fut-il fasciste ou démiurge ?» Ça, c'est la réponse à la fameuse polémique lancée par l'ouvrage de Xavier de Jarcy qui s'appelle « Un fascisme français ».
D'ailleurs, dans le hors-série que nous avons fait, Xavier Jarcy, nous lui avons donné 4 pages pour qu'il explique son point de vue. François Chalin aussi a ses pages. Donc cette polémique se retrouve au sein de notre hors-série. Et j'avais très envie qu'on en parle parce que c'est vrai que c'est tout le monde le savait. Les archives de Le Corbusier sont tout à fait accessibles. La Fondation Le Corbusier ne cache rien. Mais bizarrement, on glissait un petit peu sur cette période difficile pour parler d'autre chose, en général, quand on parlait de Le Corbusier.
Alors, quand vous dites période difficile, disons qu'il a été à Vichy, quoi.
Paul Chemetov se trompe d'ailleurs. C'est dès le début juillet qu'il se retrouve à Vichy. Donc, très rapidement, il se retrouve à Vichy.
Mais bon, le vote des pleins pouvoirs, c'est le 20 juillet.
Oui. Donc c'était a priori avant. Oui. Mais donc, il cherche du travail aussi. Combien d'architectes aujourd'hui travaillent pour des gens pas très fréquentables? Oui. Vous voulez une liste?
En tout cas, les architectes de l'époque étaient quasiment tous dans le même bateau. Pas tous, mais beaucoup.
Voilà, les architectes, ça penche du côté du Manche, parce que c'est le Manche qui donne du travail.
Il faut
quand même
des commandes.
Il faut des commandes.
Surtout à une époque où les pouvoirs publics, et en France, les pouvoirs publics sont les principaux commanditaires. Il ne faut pas l'oublier, hein, bien entendu.
Mais c'est vrai que Le Corbusier fait des yeux doux à Mussolini. C'est vrai que Le Corbusier fait des pieds et des mains à Vichy pour travailler. Mais ça ne marche pas. Il ne vend rien à Mussolini et il ne fait rien à Vichy. Et d'ailleurs, au bout de 18 mois, il part en claquant la porte, en ayant une phrase assez cruelle. Il dit « Vichy me fait vichier ». Et il traite cette ville de bilieux et il s'en va. Et il va à Paris et c'est là qu'il rédige la charte d'Athènes, qui est un document qui est peut-être plus problématique que ses réelles amitiés pour des gens qui n'étaient pas très fréquentables. Mais bon,
problématique en quoi ?
Ben, c'est ce que disait Michel Ragon tout à l'heure, quoi. C'est, on peut penser que cette charte d'Athènes qui dit, en gros, il faut faire des maisons, c'est le principe du zoning. La rue disparaît, on fait des grands ensembles aérés dans de l'air pour que les gens respirent le bon air. On va consommer ailleurs et puis on va travailler encore dans un troisième endroit. Ça a donné les cités d'aujourd'hui avec les centres commerciaux, avec la nécessité de prendre des voitures pour aller d'un endroit à un autre. Et si on n'a pas de voiture, ça marche encore moins bien. Et puis tout le mal des banlieues. Enfin, on va pas lui faire porter tout le chapeau, mais.
Mais il incarne assez bien tout ça, il faut bien le reconnaître.
Et puis les aménageurs de l'après-guerre et les architectes, mais surtout les pouvoirs publics, les commissaires au plan, etc., se précipitent sur ce document qui est tout prêt et l'appliquent souvent mal et pas avec l'argent qu'il faudrait, les financements qu'il faudrait.
On peut dire que toutes les déviances, enfin une partie en tout cas des déviances de l'architecture dans les années 50 et 60 sont directement inspirées de cette charte de Le Corbusier.
Directement, je ne sais pas, je ne suis pas historien, moi je ne suis que journaliste, vous savez.
En tout cas, elle
a une responsabilité, très clairement, oui.
Et au-delà même de cette responsabilité-là, n'oublions pas cette dimension théoricienne très forte. C'est un idéaliste, Le Corbusier. Il part de l'idée, il part du concept et non pas du pratique. Ce n'est pas un pragmatique, hein, pas du tout même. Il est tout le contraire.
Je ne sais pas si vous avez vu ses cuisines à la Villa La Roche ou même à la Cité Radieuse où c'est pas trop mal. C'est quand même très rikiki. C'est pas un homme qui aime manger. C'est pas possible.
Ouais. Non, il n'y a pas tellement de convivialité peut-être dans tout ça. Même cette idée des rampes qui évitent les escaliers, dans la pratique, ça vous fait faire beaucoup de pas. Hein. Je me suis rendu compte de ça. Là.
À ce propos, j'étais à Chandigarh, où pour le palais du gouverneur, j'ai plus comment ça s'appelle, là où il y a le siège du gouvernement, oui. Il savait qu'il y avait des problèmes d'électricité, donc il n'a pas fait d'ascenseur. Et il a fait une rampe qui permet de desservir tous les étages. Le temps passant, les gens en avaient marre de monter par la rampe et donc ils ont fait des ascenseurs. Et maintenant, il y a 4 ascenseurs dans ce malheureux immeuble qui est comme une cité radieuse, mais 10 fois plus grande, où il doit y avoir 5000 personnes ou 6000 personnes qui travaillent. Ce qui fait que pour passer d'un étage à l'autre, vous avez 20 minutes de queue à l'ascenseur et personne dans les rampes. J'ai vérifié.
Là, il faut bien reconnaître que la préoccupation du bien-être des habitants est passée un peu au second plan.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
L'architecte Le Corbusier est au cœur de l'histoire cet après-midi. Franck Ferrand, vous recevez le journaliste Atlérama, Luc Le Châtelier, rédacteur en chef du hors-série Le Corbusier, le bâtisseur du XXe siècle, en kiosque actuellement.
J'ai l'impression que ce n'est pas le même homme qui construit des maisons, somme toute, assez agréables et des villes impossibles. Luc Le Châtelier, c'est mon idée ou c'est vrai ?
C'est mon idée aussi. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Effectivement, c'est un architecte assez génial et qui...
Plus c'est petit et plus il est doué, en quelque sorte.
Hein. Ouais. En même temps... C'est compliqué, parce que Chandigarh, en Inde, qui est une ville entière qu'il a conçue, enfin il n'a pas construit tout, hein, mais il a conçu l'essentiel et son cousin Jeanneret a fait le reste, fonctionne. Mais parce que il a mis cet esprit cartésien, bon, d'abord il l'a fait 20 ans ou 30 ans après avoir fait ses plans, le plan voisin ou le plan pour Alger, qui étaient des plans assez redoutables, là il y va un peu plus doucement. Et puis, il y a les Indiens qui rajoutent une couche d'indianité là-dessus. C'est-à-dire que c'est assez luxuriant. C'est une cité-jardin. C'est assez beau. Mais c'est vrai que ces théories urbaines sont assez discutables.
Il dit lui-même, vous l'avez mis en exergue au-dessous de cette espèce de plan incroyable d'un Paris ravagé, en quelque sorte. Les vides immenses que je créais dans une ville imaginaire, j'avais une grande angoisse qu'ils fussent morts, que l'ennui n'y régnât, que la panique ne saisît ses habitants. C'est exactement ce qui se passe en fait, donc il était quand même conscient de ce danger.
Cette déclaration est un peu tardive dans sa vie, mais oui, clairement, oui.
Il avait peut-être résolu le problème des villes, de la circulation, de l'urbanisme, mais il l'a fait au détriment de la vie d'une certaine manière.
Au détriment de la rue, au détriment des contacts humains, au détriment du petit commerce, tout ce qu'on regrette aujourd'hui.
quelle est son attitude face à la nouveauté technologique? C'est-à-dire que vous nous l'avez dit, il utilise le béton, alors là en quantité, hein, le verre également, l'acier, enfin tous les nouveaux matériaux de construction.
Oui, et puis il a une passion pour les avions, il a une passion pour les voitures. Et c'est vraiment un homme de son temps, un homme de la modernité, un homme du mouvement. Et il aime beaucoup, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, tous ces objets industrialisés qu'on peut fabriquer en série, qui sont vraiment le symbole de la modernité.
Et peut-être aussi une obsession de l'ordre, de la propreté, enfin tous ces aspects. Hein. Alors on imagine toujours les architectures de Le Corbusier blanches. En fait, c'est pas le cas. Il utilise et il sait manier la couleur.
Oui, il utilise beaucoup la couleur. Ouais. C'est à ça qu'on reconnaît souvent ces immeubles. Hein. Les loggias, l'intérieur des loggias est souvent peint. Et alors les puristes se disputent pour savoir quelle est la pure couleur Le Corbusier. C'est quel vert, quel bleu, quel jaune, quel rouge. Mais la Cité Radieuse à Marseille, c'est plein de couleurs.
Alors que les maisons qu'il fait pour des particuliers sont presque toujours monochromes.
Certes, mais encore, j'ai appris que la Villa La Roche, là où il y a la Fondation Le Corbusier, est en ce moment en travaux et qu'ils ont fait des sondages dans les murs et qu'ils se sont aperçus que la première couche n'était pas blanche et qu'elle était plutôt ton pierre, ce qui est assez étonnant pour Le Corbusier. Ça a été repeint après, sans doute, peut-être par Le Corbusier lui-même. Mais...
Cette Villa La Roche, elle a été offerte par son propriétaire à la Fondation Le Corbusier, qui existait du vivant de Corbusier, il faut le dire, ça. C'est-à-dire que...
Le Corbusier était très soucieux de sa propre image.
C'est ça, oui, et de sa postérité.
De sa postérité. Mais c'est que, vous l'avez dit plusieurs fois, mais c'est effectivement, c'est très rare, hein, un architecte qui arrive à un tel degré de notoriété. Et je pense que c'est arrivé parce que c'est un bon architecte, mais parce que surtout, il avait un sens de la communication hors de toute proportion. Déjà, se faire ce look, les lunettes, le nœud papillon. Très jeune, il commence avec ça. Très jeune, il fait de la provocation aussi. Il écrit beaucoup, il écrit.
En fait, vous nous dites que les gaffes, ou supposées telles, sont peut-être plutôt des coups de communication.
Je suis persuadé que le plan voisin, c'est un plan com.
C'est ça. On est certain qu'en disant qu'on va raser les deux tiers de Paris, on va faire parler de soi. Hein, ça.
Absolument.
Ça, il n'y a aucun doute sur la question. Peut-être un peu moins maintenant, parce que d'autres s'y sont essayés. Mais à l'époque, c'était le scandale absolument assuré. Vous avez cité cette villa à La Roche, qu'on peut très facilement visiter à Paris. Bien sûr, il faut conseiller cette visite. C'est assez spectaculaire. La villa Savoie, j'en disais un mot, à Poissy.
Très belle. Oui,
qui est une sorte de musée, un peu, en quelque sorte. Un conservatoire, disons. Hein.
Mais justement, il y a le fils, dans le petit-fils de Madame La Roche, qui vient de sortir un livre très amusant, oui, sur cette villa La Roche, qui a été commandée par les La Roche. C'était leur maison de campagne. Ils habitaient à Paris et ils allaient à Poissy en week-end. Et ils ont commandé cette maison. Et il y a un échange de lettres entre Le Corbusier et Madame Savoie, qui est vraiment croquignolesque. Parce qu'au début, elle lui commande les choses, elle est toute contente. Puis après, petit à petit, après, très vite, elle dit, il pleut dans ma chambre, il pleut dans le garage, il pleut dans la chambre des domestiques, il pleut dans le salon. Et elle finit par lui envoyer une lettre assez sèche en lui disant, je suis étonné, monsieur l'architecte, qu'après 3 ans, vous acceptiez de dire que cette maison est inhabitable.
Oui. Alors, beaucoup, beaucoup plus modeste, il y a le cabanon dont je parlais tout à l'heure, à Roquebrune, Cap-Martin. Ça se visite, ce cabanon de Le Corbusier ?
Oui, parce qu'il est mitoyen de la maison d'Hélène Gray et d'une petite unité de camping que Le Corbusier avait fait pour le cabaretier qui était là, l'étoile de mer. J'ai oublié le nom de l'homme qui tenait ça. Il y a 4 ou 5 petites unités de camping. Le cabanon et la maison d'Hélène Gray. La maison d'Hélène Gray était en chantier et je crois que c'est de nouveau ouvert au public. Il faut se renseigner à l'office du tourisme de Roquebrune Cap-Martin.
Ah, ça ressemble à quoi? C'est tout petit. Hein,
ah, c'est tout petit. C'est 3,30 m sur 3,30 m. C'est les dimensions du modulor.
Alors voilà. Et ça nous amène à ce fameux modulor. Qu'est-ce que c'est que ce modulor? Ça fait un peu penser à l'homme de Vitruve, ça fait un peu penser à toutes les théories de Léonard de Vinci sur le nombre d'or et sur la section idéale. Est-ce qu'il y a une recherche de cet ordre? Absolument. Une recherche platonicienne chez Le Corbusier?
Le Corbusier dit qu'il veut remettre l'homme au cœur de la mesure, qu'avant l'invention du mètre à l'époque de la Révolution, on calculait en pieds et en pouces, ce qui sont des mesures humaines. Et lui veut réintroduire d'une certaine façon le pied-pouce dans le... Mais là, il l'appelle le modulor.
Qui est une forme plus scientifique.
C'est beaucoup plus scientifique. C'est une échelle logarithmique basée sur le principe de... Je ne sais plus quel chercheur italien du XVe siècle, mais qui fait... Alors c'est ça le problème du modulor, moi je trouve. Il fait 1m83, c'est la taille du bonhomme. Mm-hmm. Et quand il lève
déjà
la...
le grand bonhomme, on va dire.
Oui, déjà. Ah bon.
Pour notre génération, ça va. Ouais. Pour celle qui vient encore
mais
plus.
Mais quand il lève la main, ça fait 2m26. Et 2m26, c'est la hauteur sous plafond. Dans la plupart de ces constructions après guerre, et 2m26 c'est pas beaucoup.
Voilà, c'est
alors ça
bien.
Va quand vous avez double
c'est
hauteur,
même carrément oppressant, hein.
comme à la Cité radieuse, vous avez toute une partie en double hauteur, mais les chambres sont à 2m26 et de pouvoir toucher le plafond de la main, moi je trouve que c'est un petit peu angoissant.
Qu'est-ce qui lui a pris de faire cette chapelle de Ronchamp dans un style tout à fait nouveau qui n'a rien à voir avec ce qu'il avait proposé jusqu'ici?
Je suis tombé sur une interview qu'il avait donnée à la radio. Je ne pense pas que c'était Europe 1. C'était Georges Charensol qui l'interviewait. Et Georges Charensol avec sa grosse
voix. Oui, ça devait être sur la radio nationale.
Et qui lui dit, mais qu'est-ce que vous êtes arrivé à Ronchamp? Qu'est-ce que vous avez fait? Et Le Corbusier, manifestement, ne veut pas trop en parler. Il veut parler de la Fondation Suisse à la Cité Universitaire. Ça, c'est encore quelque chose qui se visite ici à Paris, qui est merveilleux. Et il dit, il parle de carré, que les étudiants s'habillent dans des carrés, donc il faut empiler les carrés, donc au résultat des courses c'est un rectangle, mais que la chapelle de Ronchamp c'est autre chose, parce que le bon Dieu est dedans, et le bon Dieu on ne peut pas le mettre dans un carré.
Ah, c'est une jolie expression en l'occurrence, mais ça donne cet effet de double voile, hein, qui est avec un mouvement, un grand mouvement d'ailleurs de cette toiture, chapelle de Ronchamp qui était un peu en danger il y a quelque temps et qui a été restauré.
Qui est maintenant. Et puis, surtout, il y a un couvent de Clarisse qui s'est installé à ses pieds. Un couvent qui a été construit par Renzo Piano. Un petit truc très discret, comme ça, qui se cache dans la colline. Et donc, elles sont là, ad vitam aeternam, on va dire. Et donc, cette chapelle, qui était un lieu de pèlerinage, mais un peu abandonnée, reprend vie. Et c'est vraiment un endroit où il faut aller, même si on ne croit ni au Dieu, ni au diable. C'est un endroit assez magnifique. Le lieu, on sent que c'était
un site qui est
habité.
Et il faudrait parler aussi de tout ce qu'il a fait pour l'Armée du Salut. Moi, je m'étais occupé d'une péniche de l'Armée du Salut, qui est sur la Seine elle-même, puis elle refuge, bien entendu. Enfin, énormément de constructions. Est-ce que tout ça est répertorié et est-ce que on peut penser que ce sera un jour inscrit au patrimoine mondial de l'humanité?
C'est l'espoir de la Fondation Le Corbusier. Elle ne travaille qu'à ça en ce moment. C'est pour ça que cette polémique, savoir si Le Corbusier avait des idées, des amis pas très fréquentables, l'énerve un peu.
Oui, il y a des conséquences, bien sûr.
Oui, ça gêne. Mais tout est très, très clairement répertorié, même si on découvre de temps en temps des choses qu'on avait un peu oubliées, comme un gymnase à Bagdad, par exemple, qui est ressorti des cartons là il y a quelques temps, et dont ils ont fait un livre.
Mais quel est son rayonnement à l'étranger aujourd'hui? Parce que de son vivant, il a été très admiré au Brésil, en Inde, partout. C'est toujours le cas aujourd'hui?
Mais écoutez, pour ce hors-série, nous avons interrogé des architectes internationaux, essentiellement des Pritzker Prize, des grosses pointures, quoi. Et tous connaissaient Le Corbusier, tous se sont prêtés à l'exercice avec beaucoup de gentillesse, et tous nous ont dit des choses assez intéressantes, effectivement, sur ce bonhomme, sur ce qu'il avait apporté à l'architecture, et même des Chinois, des Japonais, ils nous ont dit que Le Corbusier était étudié dans les écoles d'architecture, peut-être plus qu'en France d'ailleurs, et que c'était vraiment quelqu'un qui avait effectivement mis l'homme au sein de l'architecture et que c'était important ça.
Merci beaucoup Luc Le Châtelier. Ce très beau hors-série de Télérama intitulé Le Corbusier, le bâtisseur du XXe siècle, est publié avec Europe 1. Il est actuellement dans les kiosques. Il accompagne, il complète. Je ne dirais pas qu'il remplace une visite de l'exposition, mais pas loin, après tout. Vous l'avez vu, l'expo?
Absolument, absolument.
Elle est belle.
Du tout. Oui, oui. C'est surtout son œuvre graphique, sa peinture, ses gravures. Il faut aller voir. Oui.
Un autre Corbusier, si l'on peut dire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et avant de revenir sur les origines de cœur de l'histoire, vous aviez une petite précision à apporter,
oui,
Franck Ferrand.
Comme nous parlons d'architecture et de modernité, c'est le moment ou jamais de célébrer les 80 ans de la merveille des merveilles, le paquebot Normandie, vous savez, qui a été lancé en mai 1935 sur la ligne Le Havre-New York, bien entendu. Et à l'occasion de cet anniversaire, vous pouvez faire confiance à la ville de Saint-Nazaire pour organiser toutes sortes de manifestations, notamment à Escale Atlantique, qui nous avait reçus si gentiment et si bien il y a quelques mois, peut-être même quelques années, je ne vois pas le temps passer, moi, vous savez.
Nous répondons maintenant à la question de Jeanne qui vous demande, Franck Ferrand, via la page Facebook de l'émission, d'où viennent les quelques comptines que l'on chante aux enfants, Ne pleure pas Jeannette, Cadet Roussel ou encore celle qu'on connaît par cœur, Il était un petit navire.
Oui, alors on avait parlé de... Il était un grand navire, le Normandie.
Hein,
mais on avait parlé de Il pleut bergère, du roi d'Agobert, etc. dans une autre émission. Il était un petit navire, c'est l'histoire de ce jeune matelot menacé d'être mangé par son équipage jusqu'à l'intervention miraculeuse de la Sainte Vierge. Au départ, c'est un chant de marin, bien entendu, qui a été arrangé au milieu du 19e siècle dans Méridien, une comédie vaudeville en un acte d'un certain Clerville. Le refrain « Ohé, ohé, matelot » n'a été ajouté qu'à la toute fin du 19e siècle. Souvent, ces comptines viennent de chansons qui n'étaient pas du tout destinées aux enfants. « Cadet Roussel », c'est une chanson satirique sur un personnage qui a existé. Hein. Ça se moque d'un huissier d'Auxerre qui s'appelait Guillaume-Joseph Roussel. On appelait donc Cadet Roussel, qui était réputé pour être un peu excentrique, qui avait deux maisons, une petite biscornue à laquelle il avait ajouté au-dessus d'un vieux porche une construction en forme de loggia. Il n'avait pas trois maisons comme dans la chanson, mais deux, si je ne m'abuse. Bon, cette chanson, elle est reprise du reste d'une plus vieille comptine, d'une plus vieille chanson du 15e siècle. Même chose avec Ne pleure pas Jeannette. Hein, cette jeune fille, Jeannette, qui refuse d'épouser un prince ou un baron et finit pendue avec son ami Pierre, condamné à mort. Cette chanson est apparue au 18e siècle. C'est la reprise d'une chanson du Moyen-Âge qui s'appelait « La Pernette se lève ». Ne pleure pas Jeannette a été beaucoup chantée dans les armées françaises à la fin du 19e siècle. C'était une chanson de marche avant d'être reprise par les scouts et peu à peu de devenir effectivement une comptine plus ou moins destinée aux enfants.